de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, confortablement installé chez vous par la simple lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, ce sera Catherine, puisque Catherine est seule.
Exactement, il y en a qui ont été attirés par les grands espaces.
C'est ça, il y en a qui sont partis en vacances, voilà. Les vénards. Donc Catherine, que nous proposes-tu aujourd'hui? Un roman, une nouvelle, un essai?
Eh bien justement, puisqu'Hervé a le dos tourné, je vais présenter un roman. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à la Turquie et j'ai choisi un roman turc publié en 2021, donc à l'automne 21.
Très récent donc.
Donc très récent, d'un auteur et journaliste turc très renommé dans son pays. Alors pour moi, c'était à la fois une façon de parler de ce pays qui vient quand même de subir une catastrophe dite naturelle, mais oui. Enfin, un terrible tremblement de terre qui a tué, blessé tout un peuple,
dans
mais
l'est.
Également en Syrie. Hein,
dans l'est de la Turquie.
Voilà,
oui.
Turquie et Syrie.
Et autre point d'actualité, ce mois-ci a lieu donc l'élection présidentielle.
Exactement, exactement. Et comme le livre que j'ai choisi, même s'il a une apparence de roman autour de roman d'amour, on peut dire, c'est un roman ancré vraiment dans la politique.
D'accord. Et comment s'appelle l'auteur?
Alors l'auteur s'appelle Ahmed. Alors ils disent Ahmet. Ahmet, le H, je crois, on doit dire.
En arabe, oui, en turc, je ne suis pas sûr.
Écoute, j'ai entendu ça du traducteur.
Ah oui,
disait
d'accord.
Ahmet Altan.
Altan.
Et il a publié plusieurs romans chez Actes Sud. Et celui que j'ai choisi, Madame Hayat, est un roman extrêmement riche. À la fois une histoire d'amour, voire deux. Un livre sur la littérature et l'importance de la littérature, sur la lecture. Et également un roman politique profondément ancré dans le contemporain de la Turquie.
J'imagine qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en ce moment en Turquie.
Oui, alors le roman se situe en fait... Enfin, vous direz, il a été écrit en 2021, mais c'est les événements de 2016 qui ont déclenché l'écriture de ce roman. Hein, donc une révolte qui a été... bien écrasé.
Mmh.
Voilà. Donc le narrateur, c'est un jeune étudiant, Fazil, étudiant en lettres, et qui est devenu boursier après le décès de son père. Il part faire ses études loin de chez lui. Et il vit dans une modeste pension au milieu de pensionnaires ou en couleur qui essaient de survivre dans un monde de plus en plus menaçant. Alors, je vais juste, ce que je n'avais pas pris, lire les premières phrases, puisque ça part tout de suite. Les premières phrases du roman... La vie des gens changeait en une nuit. La société se trouvait dans un tel état de décomposition qu'aucune existence ne pouvait plus se rattacher à son passé comme on tient à des racines. Chaque être vivait sous la menace de sombrer dans l'oubli, abattu d'un seul coup comme ces pantins qu'on prend pour cible dans les fêtes foraines. Et c'est ce qu'arrive à Fazil. Son père est ruiné, il meurt d'une crise cardiaque et le jeune garçon qui n'avait aucun souci financier devient boursier et a du mal évidemment à continuer ses études. Et il croisera une jeune fille qui est également étudiante et qui a le même parcours familial. Voilà.
Oui, dans la Turquie d'aujourd'hui, ça peut paraître un peu, comment dire, un peu provocateur.
Hein, mais oui. Ouais, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce personnage, pour gagner un peu d'argent, parce qu'il faut bien un peu d'argent pour se nourrir, pour tous ces détails bassement matériels, il se fait un peu d'argent, il va faire de la figuration dans un show télé. Alors là, il y a des descriptions d'un kitsch incroyable de cet enregistrement de show télé. Et c'est dans cet endroit incroyable qu'il rencontrera deux femmes que tout oppose, Madame Hayat, la fameuse Madame Hayat, et Silla, la jeune étudiante. Et le narrateur navigue entre ces trois mondes. Alors trois parce qu'il y a l'université avec les cours. Il a entre autres Madame Nermin qui est un professeur qu'il admire énormément. La pension, donc avec tout ce regroupement de déclassés. Et le show télé avec ces deux femmes que tout oppose. Et dans le premier extrait que j'ai choisi, le narrateur réfléchit donc aux paroles de ses professeurs sur le rôle de la littérature. Et dans la deuxième partie de la première lecture, nous allons faire connaissance avec Madame Hayat.
«
La littérature est un télescope braqué sur les immensités de l'âme humaine, avait dit notre professeur d'histoire littéraire, M. Kahn. Grâce au livre, j'avais appris à examiner ainsi tous les êtres qui croisaient ma route, à commencer évidemment par moi-même. Je savais désormais que l'âme humaine n'est pas un tout, lisse et cohérent. C'est un agrégat de morceaux dépareillés qui se soudent progressivement les uns aux autres. Et à l'évidence, ces jointures ne sont jamais imperméables. En même temps que je méditais ainsi, je voyais que je m'éloignais à grands pas de mes camarades de classe. Je fuyais, par peur qu'ils découvrent et me fassent sentir que j'étais désormais misérable. Et si absurde que fût ma hantise, je faisais tout mon possible pour leur dissimuler la vérité. Je craignais d'être moqué, humilié, et cette crainte, je m'en apercevais alors, ne faisait que m'enfoncer dans le désarroi. Je savais pourtant qu'avouer franchement, dire la vérité au grand jour, me rendrait plus fort, plus respectable. Mais rien n'y faisait. Je continuais de presser le pas. Ce point faible était l'une de ces jointures dont j'ai parlé, de celles qui ne se laissent pas facilement colmater. J'avais honte d'être pauvre et j'avais honte de mentir sur ma pauvreté. D'un autre côté, les paroles de Madame Nermine faisaient leur chemin dans mon esprit. Je m'aperçus que je n'avais jamais réfléchi à la question de la liberté. Suis-je libre ? Me demandai-je tout à coup. La question semblait surgir sous mes yeux tel un panneau publicitaire géant au coin d'une rue. Et j'étais pris par surprise. La question était-elle si effrayante ? Suis-je libre ? C'était la réponse, plus que la question qui m'effrayait. Non, je ne suis pas libre. Une autre question plus cruelle encore se posait alors. Serais-je jamais libre ? Comment se faisait-il que cette vérité ne m'ait encore jamais traversé l'esprit ? Comment était-ce possible que j'aie vécu jusque-là sans me poser ces questions ? Et si Madame Nermine avait parlé ainsi de la liberté un an plus tôt ? L'aurais-je écouté ? Aurais-je été ébranlé comme je l'étais, ou bien l'argent que j'avais alors m'aurait-il préservé ? Est-ce que tous les autres hommes se posent ces questions-là, ou bien fallait-il avoir sombré comme moi dans un abîme qui paraissait sans fond pour enfin se les poser ? Ne comprend-on le sens de la liberté que lorsqu'on a touché le fond ? Et que faire maintenant ? Qu'allais-je faire ? Comment pourrais-je vivre à présent que j'avais découvert la vérité de mon impuissance existentielle ? Quelque chose avait changé en moi. Mes sentiments anciens s'effaçaient, d'autres prenaient leur place au gré de ces pensées dont l'enjeu réel m'échappait encore. Je découvrais des questions dont les réponses me plongeaient dans un océan d'effroi. Ce soir-là, j'étais de figuration à la télé. Madame Hayat était là. D'où j'étais assis, je pouvais entrevoir ses longs cheveux roux, la tendresse moqueuse de son sourire. Elle portait sa robe couleur de miel. Sous la lumière des spots, elle semblait entourée d'un halo d'or qui embrase. Peu après l'extinction des feux, Silla arriva à son tour. Elle m'avait aperçu, elle me sourit en s'asseyant. À un moment, la caméra nous filma, Silla et moi. Nos visages apparurent sur l'écran géant. Je ressentis une étrange culpabilité. Je n'avais rien fait de mal, commis aucune faute, j'étais vierge de tout péché, et pourtant je me sentais coupable. Le tournage s'acheva sans qu'il y eût de pause. Le public avait déjà commencé à quitter la salle, je ne bougeais pas. Silla s'était levée, elle attendait que je me lève à mon tour. Je me levai, nous sortîmes côte à côte. Silla m'observait avec une espèce d'impatience. À cet instant, j'entendis qu'on prononçait mon nom derrière moi. Je me retournai. Madame Hayat traversait la foule droit vers nous. Silla la regarda un instant, puis elle me regarda. Madame Hayat était maintenant à notre hauteur. « Bon ben, moi j'y vais, » dit Silla. Je restai muet. L'espace d'une seconde, une très courte seconde, nous fûmes tous les trois face à face, pétrifiés. Je pouvais sentir l'odeur rance des vieux tapis monter vers nous. La rumeur des gens qui nous encerclaient bourdonnait dans mes oreilles. Madame Hayat me regardait, moi je détournais le regard. Silla nous tourna le dos, elle partit sans dire un mot. Je la regardais s'éloigner en proie à un sentiment qui ressemblait à la honte et à la peine. mais je ne fis pas un geste pour la rattraper. « Comment vas-tu ? » demanda Madame Hayat. « Très bien, et vous ? » ?»« Si tu n'as rien de prévu, attends-moi une seconde et on va dîner tous les deux. »« Je vous attends. Je me change et j'arrive. » Je m'assis sur une chaise en plastique en l'attendant. Elle n'avait posé aucune question sur Cilla. Or, j'étais sûre qu'elle nous avait vus tous les deux sur l'écran. Elle l'a toujours nié. Elle ne m'a jamais menti. Au moment où nos visages, à Cilla et à moi, étaient apparus sur l'écran, j'avais immédiatement tourné les yeux vers Madame Hayat et j'avais vu qu'elle fixait l'écran. Or, chaque fois que j'avais remis le sujet sur la table, désirant secrètement la coincer, elle répondait « Mais comment je vous aurais vu à la fin ? Tu inventes !» Et cependant, ses lèvres se pinçaient en un sourire que je ne lui voyais jamais, inquiet et malhabile, comme sur le point de se déchirer sous la pression d'un aveu qui la brûlait. Un sourire qui semblait concéder ce que ses mots refusaient d'admettre. Nous allâmes de nouveau dans le restaurant aux mille et une statues. Elle avait attaché ses cheveux. « Tu es ailleurs, on dirait, » me dit-elle. « Non, » lui répondis-je en riant. Elle me caressa la main du bout des doigts. Il ne faut jamais oublier deux, trois choses. La première, c'est que nous vivons sur un petit caillou indécis et tremblant. La seconde, c'est que la vie est très courte. La troisième, elle se tue. La troisième ? Tu la trouveras toi-même. Allez, mange un peu de ces délicieux mezzé. Elle n'aimait pas les disputes, elle n'insistait jamais. Elle disait seulement ce qu'elle avait envie de dire et se fichait pas mal de l'interprétation qu'on en ferait ensuite. Ce soir-là, elle portait une robe couleur prune. Lorsqu'elle se penchait en avant, mon regard plongeait dans le sillon d'ombre qui courait entre ses seins. L'idée d'avoir fait de la peine à Cilla me traversa soudain l'esprit. C'était comme un fantôme qui erre dans le brouillard des rues, une pensée qui disparaît rapidement mais dont je savais qu'elle réapparaîtrait aussi facilement. En sortant du restaurant, je trébuchais contre la statue de Cendrillon. J'en fus émue. « Viens, dit-elle, marchons un peu, la nuit est belle. » Nous marchions côte à côte. J'écoutais le bruit de ses talons qui martelaient le sol. Nous ne parlions pas. Elle semblait réfléchir. Après un long moment, elle s'arrêta. « Je suis fatiguée de marcher, prenons un taxi. » Elle ne fit pas d'objection quand je payai le taxi. Elle sortit une clé pour ouvrir la porte de l'immeuble. Nous entrâmes dans un petit ascenseur à la porte chromée. À l'intérieur, nous étions trop loin pour nous toucher, assez près pour sentir la présence de l'autre. Elle avait un parfum de lys. Nous sortîmes au dernier étage. Son appartement était d'une sobriété étonnante. Assieds-toi, je t'en prie. Je vais faire un café. Je pris place sur le canapé, elle revint avec deux cafés. Elle s'assit sur le fauteuil, les jambes croisées, sa robe remonta sur sa cuisse, j'en avalai ma salive, incapable de savoir quoi dire, quoi faire. Elle était clairement en train de me séduire, et moi je n'arrivais même pas à me rendre compte que j'étais en train d'être séduit. « C'est très beau chez vous, » dis-je d'une voix timide. « Tu aimes ? » ?»« Oui, vraiment. » Son appartement embaumait la fleur. Les rideaux étaient tirés, elle me regardait en souriant d'un air espiègle et joueur. Nous bûmes nos cafés sans dire un mot. Je sentais pourtant qu'il fallait que je dise quelque chose, mais aucune phrase ne me venait à l'esprit. Et je ne savais pas si elle attendait que je fasse le premier geste. J'étais tétanisée sur place. Elle posa sa tasse de café vide sur la table basse. « Viens, » me dit-elle doucement en se levant. Je la suivis dans le couloir, les yeux rivés sur le mouvement de ses genoux. Au bout du couloir, nous entrâmes dans la chambre à coucher. Une veilleuse était allumée au chevet du grand lit. Elle se déshabilla lentement. On aurait dit qu'elle prenait un plaisir particulier à ôter chaque morceau de tissu, l'un après l'autre. Elle était toute nue et je n'avais même pas déboutonné ma chemise. J'étais absorbée par le spectacle qu'elle m'offrait. Son corps était plus jeune que son visage. Elle s'allongea sur le lit en me lançant d'un air moqueur. « Eh bien, tu comptes rester plantée là toute la nuit ?» Je me déshabillai en vitesse. Elle faisait l'amour avec douceur, sans précipitation, jouissant de chaque mouvement, chaque caresse, ainsi qu'elle s'était déshabillée. Ses gestes tendres dirigeaient les miens, il m'indiquait ce que je devais faire, et je les suivais dévotement, sans gêne ni contrainte. Nos soupirs et nos cris se firent plus vifs, plus forts, comme la flèche d'un archer magnifique s'élance quand il relâche soudain la corde et qu'il avait longtemps tendue. Je m'abandonnai complètement. Tout mon être envahi d'une sensation qui tenait du rêve et de l'envol dans un nuage parfumé de lys. Les 11 jours suivants furent comme une parenthèse enchantée au milieu de l'existence. Une autre vie, un autre monde, le temps, la gravité, la lumière, les couleurs, les odeurs en étaient changées. Je découvris des lois nouvelles, des habitudes inconnues, des plaisirs insoupçonnés. Entre ses bras, contre son sein, la peur et l'angoisse, le passé et l'avenir s'évanouissaient. Il n'existait plus qu'une solitude peuplée de lumière, une obscurité lourde de désir. Là, je grandissais, je vieillissais, je mûrissais, j'oubliais tout.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.
Femme surprenante, cette Madame Hayat. Un beau portrait de femme.
Oui, elle est la vie. Hayat en turc veut dire la vie. C'est un mélange de sensualité et d'humour. Elle contraste avec ce bon élève qu'est Fazil. C'est un choc culturel entre deux mondes, entre ces deux personnages. L'un apprend à la fac et dans les livres, l'autre se nourrit de documentaires télé et de son expérience et de l'instant. Un peu plus tard, en parlant de Madame Hayat, le narrateur dira « Madame Hayat est libre, sans compromis ni révolte, libre seulement par désintérêt, par quiétude, et à chacun de nos frôlements, sa liberté devenait la mienne. »
Ce n'est pas tout à fait l'image qu'on se fait de la femme turque, même si on sait que les personnes qui vivent en ville et les gens qui vivent dans les campagnes reculées en Turquie sont des,
c'est pas les mêmes.
Des
là,
gens
on...
très différents.
Voilà. Là, on est dans la capitale. Là.
Mais voilà, on n'imagine pas.
Il y a eu quand même de très beaux romans, puisque vous avez fait une émission sur l'érotisme, de très beaux romans érotiques turcs. Hein, donc, il y a une littérature comme
ouais.
ça quand même.
Oui, oui.
Donc,
non, parce que je pensais à, je sais pas, Yaşar Kemal, par exemple,
oui.
c'est pas du tout cette Turquie-là
ah,
qu'il
oui,
décrit.
Oui, oui, oui. Alors, parallèlement donc à cette relation, il apprend à mieux connaître et à apprécier Sila. Elle est citée plusieurs fois dans la première lecture que j'ai faite. Donc, c'est une jeune étudiante qui est comme lui, qui vient d'une bonne famille, comme lui, et comme lui, elle a tout perdu. Voilà. Son père s'est vu confisquer tous ses biens et ils se sont retrouvés. Ils avaient quelques heures pour prendre une valise et sortir de chez eux. Tout était confisqué.
Ouais, c'était la tentative de coup d'État
de 2016. Voilà. Voilà.
Qui a amené une répression absolument terrible.
Terrible, voilà. Donc, je vais te parler de la petite Sila. Nous avions le même âge. Nous venions d'un milieu comparable, nous avions reçu une éducation semblable, nous lisions les mêmes livres. J'eus envie de l'embrasser, mais elle m'intimidait. Elle me faisait peur d'une façon pourtant très douce, très sensuelle, attirante. Elle remit ses lunettes pour la seconde moitié du film, mon bras frôlant toujours le sien, parfois mon épaule. J'ignorais si elle sentait aussi ses contacts répétés. Moi, en tout cas, je les sentais. À la fin du film, nous redescendîmes lentement les grands escaliers, traversant en sens inverse le centre commercial qui paraissait maintenant désert. Au rez-de-chaussée, nous tombâmes nez à nez avec une boutique de chocolat et de confiserie d'une marque très célèbre, dont les présentoirs étincelaient comme la vitrine d'un bijoutier. Elle s'arrêta net, les yeux fixés sur les merveilles en vitrine. Disposés sur des plateaux d'argent, il y avait des orangettes de la taille d'un doigt, des marrons déguisés à la pointe saupoudrés d'éclats de pistache, des madeleines rebondies, des pralines en forme de coquillage, des fondants à la confiture de griotte dans leur glaçage rouge étincelant, des dragées aux raisins comme des perles noires. « Lequel ? Lesquels tu aimes le plus ? » demandai-je. « Tous. Mais ce sont sans doute les orangettes que je préfère par-dessus tout. » « J'en demande 100 grammes ?» Elle ne dit rien. J'allais entrer dans la boutique quand j'entendis dans mon dos « Prends aussi 2 marrons déguisés. » À l'intérieur, je demandai 100 grammes d'orangettes au serveur, placé derrière un comptoir recouvert d'un velours très chic. L'homme sortit un sachet d'une des boîtes ciselées derrière lui, il enfila un gant en nylon et commença à mettre une à une les orangettes dans le sachet. Au moment où il le refermait, je lui demandai de rajouter 2 marrons. Il me regarda d'un air lard, ouvrit le sachet et y plaça les marrons déguisés. Je donnai le sachet à Sila en sortant. Elle le tenait délicatement entre ses deux mains, comme une chose fragile et précieuse. Un sourire de petite fille illuminait son visage. Je ne l'avais jamais vue sourire ainsi, je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. La voiture était garée dans le parking souterrain du centre commercial. Une étrange sensation m'envahit au moment de mettre le contact. Je me tournai vers Sila. Elle pleurait. « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ça va. Tu es sûre ?» Elle éclata brusquement en sanglots. « Parfois je craque, j'en peux plus, » dit-elle en hoquetant. « Je ne supporte pas de me sentir aussi heureuse à cause de 100 grammes de chocolat. » Je ne savais pas quoi dire. « Excuse-moi, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Allez, viens, partons d'ici. » Une fois sortie du parking, elle me tendit le sachet. « Non, merci, c'est pour toi. Je ne suis pas si fou de chocolat, tu sais. » Elle prit une orangette du bout de ses longs doigts, elle en croqua l'extrémité, puis elle mâcha lentement, savourant son plaisir. Elle me tendit la tige de chocolat entamée. « Vas-y, croque, c'est délicieux. » J'ai croqué. Il y avait une éternité que je n'avais plus mangé de chocolat et c'était délicieux en effet. Elle avala le bout restant, puis lécha doucement la pointe de ses doigts. Croquer chacun son tour dans le même morceau de chocolat, cet acte d'une intimité sublime que seuls deux êtres très proches peuvent connaître, c'était comme faire l'amour, et j'étais soudain tout excitée, autant que si je l'avais vue nue. Mordre cette orangette, c'était comme s'embrasser, s'enlacer, se prodiguer une chaleur secrète, profonde, puissante. Je sentais un immense désir pour elle, une attirance animale qui me brûlait le bas-ventre, et en même temps, sans aucun rapport avec ce désir, un amour plein de douceur et de tendresse. Une simple friandise en chocolat avait réussi à me rendre amoureux. Je me concentrais sur la route. Jamais auparavant un geste comme celui-là, aussi bref et insignifiant, n'avait suscité en moi une émotion si violente. Mais avec ma solitude qui grandissait, les émotions aussi gagnaient en ampleur. Elles se gonflaient telles de lourds nuages de pluie, errant au gré des vents dans l'espace infini de la solitude, sans connaître leur direction ni savoir quand s'arrêter. On approchait de chez elle. « Qu'est-ce que tu fais demain ?» lui demandai-je. « J'ai cours demain et après-demain, mais ensuite je serai libre. »« Alors je t'appelle. » Au moment de descendre, elle se pencha vers moi et m'embrassa au coin des lèvres. Sa bouche était chaude. Elle avait un goût de chocolat. Je vivais dans un équilibre étrange et scandaleux. Habitant seule dans une chambre d'étudiant, j'avais deux femmes dans ma vie. Deux relations auxquelles il était difficile de donner un nom et que du reste je ne savais pas définir. Ce que j'étais pour elles, ce qu'elles étaient pour moi, je n'en savais rien. On ne parlait pas de nos sentiments, on ne faisait aucune promesse, on n'en réclamait même pas. À tout instant, elles pouvaient me quitter et sortir définitivement de ma vie. Avec Madame Hayat, on se voyait au studio de télé, puis on allait chez elle. Le lendemain matin, on se séparait. De savoir si on se reverrait à la prochaine émission, il n'était jamais question. Parfois, elle ne venait pas sans explication, je ne lui en demandais aucune. Elle semblait avoir choisi en toute conscience de laisser les choses dans le vague, refusant obstinément que notre relation, comme l'existence en général d'ailleurs, prît un tour plus formel ou au moins descriptible. Aucune ligne claire, nette, délimitée ne venait circonscrire notre relation. Elle pouvait changer à tout moment, devenir autre chose, voire disparaître purement et simplement. Si ce flou permanent me rendait inquiet, il avait aussi quelque chose d'étrangement excitant. Je voulais les tenir, les avoir bien en main, elle et notre relation, mais elle m'échappait. Avec Silla, on se voyait quand nos emplois du temps le permettaient, on se baladait, on allait de temps en temps au cinéma, on allait dans les bistrots pas chers pour discuter de littérature, parfois pendant des heures. Nous aimions les mêmes livres, les mêmes personnages, les mêmes écrivains. Je me sentais profondément attachée à ces deux femmes et en même temps, rien n'étant officiellement nommé entre nous, j'éprouvais de la culpabilité. Je me sentais coupable de cacher à chacune la part de l'autre dans mon existence et de ne pas réussir à leur avouer la vérité, ni à l'une ni à l'autre. Mon silence me révélait quelle trahison y couvait sourdement. Le fait de savoir qu'elle non plus ne me disait pas tout était loin de me consoler, au contraire. Cela ne faisait qu'attiser mes soupçons et ma jalousie, ajoutant au tourment de ma culpabilité ceux d'une douloureuse curiosité. Si chacune était à sa place propre dans mon esprit, place qui ne s'intervertissait ni ne se chevauchait jamais, telles deux lignes parallèles, l'ombre portée de chacune tombait pourtant sur l'autre et s'y mêlait. Ces ombres-là m'égaraient, elles m'empêchaient d'y voir clair, elles prolongeaient et densifiaient les espèces de ténèbres d'indécision qui m'embrumaient la cervelle. Si c'était elle ou moi à l'origine de cette obscurité d'éclipse, je n'arrivais pas exactement à le démêler. Je sentais en tout cas que, contrairement à ce qui se passe en géométrie, les deux lignes ne resteraient pas parallèles à l'infini. Elles finiraient par se croiser.
Malattia o di terrore, di sete o di fame o di depressione, di ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. giovane età, ormai in pensione. Per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, di male d'amore o un colpo di sole. Fuori strade spoglie, nessuno sa che cosa accadrà. Soffia vento freddo sopra i nostri giorni e dietro le porte, armati di sogni, aspettando che torni. La nostra vita
donc un roman d'apprentissage et d'amour pour ce jeune homme entre cette femme mûre et cette jeune étudiante, deux femmes aux antipodes. C'est un roman d'initiation, somme toute, très classique.
Oui, oui, s'il n'y avait pas la dimension politique. La sensuelle Madame Hayat, c'est une quinquagénaire, et la cérébrale Sylla, donc étudiante, en lettres comme lui. Le récit semble se déployer entre volupté et romantisme. Les deux femmes qu'aime le narrateur sont les deux visages de la Turquie. Et c'est ça qu'il a voulu traduire. Turquie progressiste et contemporaine. Sylla et son envie de fuir ce pays qui veut les broyer. Madame Hayat et sa joie de vivre. Malgré tout.
Malgré tout.
Malgré tout. Oui. L'une fera tout pour fuir, l'autre ne bougera pas.
D'accord. Et donc, tu nous parlais des trois mondes que fréquentait Fazil, et tu ne nous as pas encore parlé de la pension où il loge.
Alors, ces personnages de la pension, jeunes ou vieux, puisqu'il y a même des enfants, ces personnages illustrent une réalité politique. Face à la montée de l'autoritarisme et des libertés qui rétrécissent, des vies basculent. Se crée alors un microcosme des réprouvés. Ils se regroupent, font société, des poètes, journalistes, simples opposants. Fazil découvre le monde, la misère, les rapports de force et l'engagement jusqu'à la mort de certains. À mon retour de l'auberge, je trouvais le poète attablé dans la cuisine avec quelqu'un que je n'avais jamais vu. « Ah, on t'attendait, » dit le poète en me voyant. Je fis chauffer du thé et les rejoignis autour de la table. « Je te présente Mumtaz, il travaille avec moi à la revue. Demain, je pars dans ma province, je serai absent quelque temps. Mumtaz t'apportera les articles à relire. Tu es toujours d'accord ? » ?»« Oui ? » ?»« Parfait. Tu relis et corriges les articles, puis Mumtaz viendra les récupérer. » Compris. Ne laisse pas traîner ces textes. Notre revue est autorisée, il n'y a rien d'illégal, mais on a quand même intérêt à ce qu'elle ne tombe pas entre les mauvaises mains. Compris. Le poète me sourit comme un père fier de son fils. Fais attention à toi, dit-il en me tapant sur l'épaule, et on se voit à mon retour. Et il sortit. Personne d'entre nous ne pouvait encore savoir quelle affreuse tragédie se tramait dans le silence de cette douce nuit. Je fus réveillée par des éclats de voix, des hurlements.
Le jour se levait à peine, j'ouvris la porte de ma chambre. Le couloir grouillait de flics. 6 policiers frappaient contre la porte du poète en criant « Police, ouvre !» Tous les locataires de l'étage étaient sortis sur le pas de leur porte. Seule celle du poète restait close. « Ouvre, sinon on enfonce la porte !» Aucune réponse. Je fermai ma porte et courus sur le balcon. La chambre du poète était à 3 chambres de la mienne. De mon balcon, j'avais une bonne vue sur le sien. Je jetai d'abord un œil en bas. La rue était pleine de voitures de police, gyrophares allumés. Les sinistres éclairs bleus et rouges griffaient les murs dans un tourbillon de plus en plus dense et effréné. Puis je tournai le regard vers le balcon du poète. Il était là. Il portait une chemise très légère. Les policiers qui étaient dans la rue l'avaient vu eux aussi. « Il est sur le balcon, » disaient-ils dans leur talkie-walkie à l'adresse de leurs collègues à l'intérieur. J'entendais la porte craquer sous leurs coups. Le poète se tenait sur le balcon avec une sérénité qui me glaçait, comme s'il était sorti contempler le lever du soleil par un beau matin d'été. Je ne pouvais le quitter des yeux. J'avais peur que les flics soient furieux et qu'ils ne l'auraient pas ouvert et qu'ils se vengent en le tabassant. « Mais ouvre la porte, » voulais-je lui crier, mais mes mots s'étouffèrent dans ma gorge. Son regard croisa le mien. Il m'avait vu mais ne me voyait pas, il pensait. Quand un jour je lui avais demandé quel était son plus grand rêve, il m'avait répondu « Monter à la tribune devant des milliers d'hommes et de femmes réunis sur une grande place et leur dire la vérité et voir leur visage illuminé par la vérité. » Il semblait prêt à le prononcer ce grand discours dont il rêvait, tout seul sur le balcon. Un instant, j'y ai vraiment cru. J'ai cru qu'il allait parler, j'ai attendu qu'il parle. La porte craquait. Elle était proche de céder. Une main appuyée contre le mur, il passa doucement de l'autre côté du garde-corps. Les policiers dans la rue le fixaient sans plus dire un mot. Il prit une longue respiration, regarda vers le ciel, puis vers moi. Son visage était nu, vide, pur, comme un miroir. Je voyais les nuages s'y refléter. J'ai tendu la main, mais il était trop loin. Puis, poussant d'un geste vif contre le mur derrière lui, il se jeta dans le vide. Il atterrit devant les voitures de police. J'entendis le bruit de son corps qui heurtait la chaussée. Il eut un dernier spasme. Il était étendu, les bras en croix, un genou remonté contre le flanc, du sang coulé de sa tempe. Je voulais m'enfuir du balcon, rentrait dans ma chambre, mais je restais là, je le regardais comme si, en cet instant, la plus grande preuve d'amitié que je pouvais lui offrir était de regarder sa mort en face, de ne pas le lâcher des yeux. C'était une manière de défi lancé aux responsables de sa mort, je crois. Aussi, je sentais un remords énorme, comme si, pouvant le retenir, j'avais ouvert les mains et je l'avais lâché. Peut-être que j'aurais pu encore l'arrêter si j'avais crié, mais ma voix s'était nouée. Je l'avais vu glisser dans le vide. Les flics avaient cassé la porte. Ils arrivèrent sur le balcon. Ils regardèrent en bas. Moi, je les regardais. Un flic me vit. « Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Rentre à l'intérieur !» Mais j'ai continué à les toiser. « Et il faut choper celui-là aussi, » a dit le flic à ses collègues. « Oh, laisse tomber, » a répondu l'autre. « On a déjà un paquet de rapports à écrire. » Ils partirent. Je restais sur le balcon, tremblant de froid, de tristesse et de peur. Le ciel était couvert. Quelques rayons de soleil filtraient à travers les nuages. Le jour s'était levé. La rue était vide à présent. Une tache de sang sombre marquait l'endroit de sa chute. Tout changeait. Certes, mais après la mort du poète, le rythme s'accéléra. J'avais la sensation d'être entraînée dans le courant de plus en plus rapide d'un torrent qui s'approche d'une cascade. 6 mois plus tôt seulement, je menais une autre vie, j'étais un autre homme. Je faisais ma mue, tels ces serpents du désert dans les documentaires que je regardais avec Madame Hayat. Je m'extirpais hors de mon être. J'étais toujours moi, mais dans une nouvelle peau, en proie à de nouveaux sentiments, plus complexes et chaotiques que les anciens. Ceux-ci étaient toujours là. Part morte au fond de moi, présent mais mort. En dehors de ce qu'il me restait du passé, je n'avais plus aucun rapport avec moi-même. Je songeais à la confiance que j'éprouvais autrefois, aux émotions qu'alors elle nourrissait, émotions clairsemées, discrètes, inoffensives, comme de petites fleurs des champs, et à présent desséchées, piétinées, égarées, au milieu d'émotions neuves qui, elles, me lacéraient l'âme et y laissaient de profonds sillons, et c'était avec étonnement, avec admiration même, à vrai dire, avec incrédulité, que je me souvenais de mes sentiments passés. Étais-je vraiment cet homme-là, pensais-je, et n'en revenais pas. J'avais découvert la colère, la peur, le désir de revanche, la jalousie, la volupté, la tromperie, le regret. Je couchais avec une femme plus âgée que moi, dont j'essayais de tuer le passé. Je songeais à commencer une nouvelle vie dans un autre pays avec une femme de mon âge. Je lisais et révisais des textes d'un genre pour moi inédit, les mains moites et tremblantes. J'avais eu un ami qui s'était jeté dans le vide, un matin à l'aube, dans sa plus belle chemise. J'avais vu des femmes guetter silencieusement, mortes de chagrin, une petite porte de l'autre côté de la rue. Et pour une raison inexplicable, je voulais venir en aide à des inconnus que je n'avais jamais vus. Tous ces souvenirs et sentiments contrastés avaient laissé sur moi des marques profondes. Mais jusqu'où s'enfonçaient-elles? Dans quelle direction? Et où étais-je seulement? Je n'en avais pas la moindre idée. Je comprendrai la route à l'arrivée.
Dig, if you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? Dig, if you will, a courtyard, an ocean of violets so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you.
How could you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. He never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Dream if you can, could you?
On sent toute la violence contenue dans ces pages. Hein. Le poète qui meurt pour ses idées.
Oui, et Sylla le comprend également parce que on verra tout au long du roman, elle veut à tout prix quitter le pays. Elle sait que c'est invivable, en fait. Et elle essaie d'entraîner avec elle Fazil. Comment continuer à vivre dans un pays soumis à...
La dictature,
à la répression, à l'arbitraire, où on peut tout perdre du jour au lendemain et être roué de coups par des barbus armés de bâtons. Ce thème est évidemment lié aux événements de 2016 en Turquie. Alors, maintenant, revenons à la réalité du roman. Après le putsch, il y a beaucoup de vies qui basculent, à commencer par celle de l'auteur, qui se retrouve en prison. Il est condamné à perpétuité après les événements de 2016. Et en prison, donc, il écrira un journal qui s'appelle « Je ne reverrai plus le monde » puisqu'il était condamné à perpétuité, où il dit tout son attachement à la littérature qui lui a permis de tenir le coup en prison. Mais il écrit aussi ce roman, et c'est là que ça prend une dimension. C'est un roman écrit en prison. Donc c'est vraiment une fenêtre
c'est
qui s'ouvre.
C'est autobiographique.
Alors, non, enfin... Non. C'est pas spécialement autobiographique, mais il essaie de se sortir de l'étouffement de la prison par cette histoire. Alors, il a dû rencontrer une Madame Hayat, etc. Mais voilà, il a c'est sa compagne. Il s'est créé des compagnes de prison. Alors, c'est ce qui lui a permis de tenir, mais c'est aussi un roman sur la liberté de choisir sa vie, ses amours, sa destinée, qui résonne étrangement. Hein, lorsqu'on apprend qu'il a rédigé ce texte en prison.
C'est étonnant ça, oui. Rédiger en prison, réussir à faire éditer...
C'est vraiment montrer que la littérature, c'est vraiment une évasion. C'est vraiment une façon de sortir. C'est aussi le fait qu'en prison, on enferme ton corps, pas automatiquement ton âme.
Pas forcément.
Voilà. Et c'est ce qui donne toute cette dimension. Tu disais au début, oui, bah, c'est une initiation, c'est assez classique, mais quand on voit comment ça a été écrit...
Ça prend une autre
voilà,
dimension.
Voilà, ça prend une autre dimension. Alors, il faut savoir que l'auteur a été incarcéré pendant plus de 4 ans en Turquie, puisqu'il avait été accusé d'avoir appelé à renverser le pouvoir, lors du coup d'État du 15 juillet 2016.
Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan, le président actuel, et alors qu'il était donc rédacteur en chef d'un quotidien qui s'appelle Taraf. Alors il a été libéré, mais comme il a été libéré en avril 21. Or son roman a été publié, c'est son avocat qui a sorti.
Les pages.
Les pages, en douce, bien sûr. Et il a pu être publié en France, il est sorti en septembre 21, donc avant qu'il ne sorte en Turquie fin 21. Mmh. Donc à la fois, on voit qu'il était condamné à perpétuité, son roman sort quand même en Turquie. Donc il y a cette sorte de va-et-vient, un peu sur... c'est du chaud et du froid. Alors il a reçu en France le prix Fémina. Il a fait tout un discours, alors on n'a pas le temps de... Mais il y a tout un très très beau discours qu'il a écrit pour qu'on le lise à la remise du prix Fémina, parce qu'évidemment, il n'a pas pu y aller.
Quitter la Turquie.
Il n'avait pas de passeport et il a encore 3 procès en cours, donc il est quand même pas...
Il n'est pas sorti d'affaire.
Donc voilà un peu l'histoire de ce roman.
Oui, on a parlé de ce livre au moment de sa sortie, effectivement, au moment du prix.
Oui, c'est... Voilà. Et bon, il n'est pas un être exceptionnel. Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont été emprisonnés à cette époque. Mmh. Voilà.
Oui, donc ce roman ne laisse pas indifférent et on aimerait en entendre d'autres extraits. Mais l'heure tourne et nous devons nous quitter. Donc il ne nous reste plus qu'à lire ce roman que tu as défendu fort bien et avec beaucoup de passion, semble-t-il.
Oui, mais franchement, peut-être, c'est pas facile en lisant quelques pages parce que franchement, il vaut la peine d'être lu dans son intégralité.
Il y a vraiment une ambiance.
Voilà, il y a une ambiance, il y a une langue.
En lisant quelques pages.
Alors, juste un détail, quand il a eu le prix Fémina, il a quand même dit qu'il dédiait son prix à toutes les femmes turques et kurdes injustement emprisonnées pour des raisons politiques. Voilà, c'est quand même rajouter ça. Donc le roman, eh bien, il s'appelle Madame Hayat, H-A-Y-A-T, parce que le H ne s'entend pas toujours à la radio, n'est-ce pas ? L'auteur Ahmet Altan, il a été traduit du turc par Julien Lapère de Cabane, c'est bien de donner le nom des traducteurs, et il est publié donc aux éditions Actes Sud 2021. On le trouve évidemment dans les librairies et dans les bibliothèques.
Et dans les bibliothèques, voilà. Bien sûr. Bien, notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Au revoir Catherine.
Au revoir.
Au revoir à tous.